Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Regard sur Haïti, où faillite des institutions de l'État et spirale de la violence continue de se côtoyer. Plus d'un mois après le début de la rébellion des gangs, l'ONU parle de situation cataclysmique. Le chaos est là, les tensions particulièrement exacerbées, le degré d'intensité et de cruauté de la violence absolument inégalé. Les grandes puissances concernées par le dossier haïtien consacrent leur énergie davantage à l'évacuation de leurs ressortissants qu'au soutien à une mission internationale. Des années que prévaut une situation chaotique en Haïti, sans qu'aucune solution n'ait jamais pu être trouvée. Les gangs sont dans la toute-puissance, bénéficiant de frontières poreuses favorables au trafic illicite d'armes et de munitions. Le pays est ravagé depuis des décennies par la pauvreté, les catastrophes naturelles, l'instabilité politique et la violence des gangs. Comment en est-on arrivé là? Comment sortir Haïti, pays le plus pauvre d'Amérique latine et ses 11 millions d'habitants, de sa situation chaotique? Regard avec nos invités. William O'Neill, expert des Nations Unies pour les droits humains en Haïti, pays qu'il arpente depuis plus de 30 ans. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Jean-Michel Carroy, journaliste spécialiste de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. Bonjour.
Bonjour, heureux d'être de retour dans ces murs.
Et merci d'avoir accepté notre invitation, ainsi que Jean-Marie Théoda, géographe, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
William O'Neill, vous êtes particulièrement familier des situations sécuritaires compliquées. Je l'ai dit, vous êtes expert des Nations Unies pour les droits de l'homme en Haïti, les droits humains, dit-on maintenant. Vous avez travaillé sur le Rwanda, le Sierra Leone, le Kosovo, la Bosnie, le Népal ou encore le Soudan. Quelle est la situation aujourd'hui en Haïti et qu'est-ce qui différencie Haïti des pays que je viens de mentionner?
Merci. Je crois que le mot, et c'est difficile de trouver les mots, mais je crois le mot que vous avez employé, catastrophique, apocalyptique,
cataclysmique,
tout ont raison. La situation est, il y a une situation de violence que je n'ai jamais vue en Haïti avant. Et la différence avec les autres pays que vous avez cités, je connais un peu, je crois que c'est plutôt l'absence quasi totale de l'État. Les institutions étatiques ne fonctionnent pas du tout, surtout dans les banlieues et dans les bidonvilles, les quartiers très très pauvres où les gangs ont le pouvoir presque total. La seule institution qui fonctionne miraculeusement, à mon avis, c'est la police nationale d'Haïti. Il n'y a pas assez. Il y a des gangs qui ont des munitions, des armes plus puissantes que la police. Mais la police est vraiment le seul point de résistance jusqu'à présent, la seule représentation de l'État dans la cité, dans la ville de Port-au-Prince. Donc c'est ça pour moi, une vide institutionnel, une vide du pouvoir étatique que les gangs ont occupé.
Alors, pour comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois, comment est-ce que la crise s'est développée, quels sont, très rapidement pour comprendre, pourquoi cette détérioration soudaine, même si ce qu'évoque à l'instant William O'Neill, c'est une situation qui se dégrade depuis des années. Quel a été le déclencheur de la crise actuelle, Jean-Michel Carroy?
Mais écoutez, je pense que évidemment on pourrait remonter loin en arrière, mais je crois que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter aux élections qui ont suivi le tremblement de terre de 2010 et qui ont amené au pouvoir Michel Martelly dans des conditions très contestées par la population haïtienne, car en fait, on ne va pas revenir dans le détail de cette affaire, mais depuis donc ce gouvernement Martelly, qui a été remplacé ensuite par son dauphin Jovenel Moïse, il y a eu une délégitimisation du pouvoir en Haïti qui a abouti à l'assassinat de Jovenel Moïse, comme vous vous en souvenez, et à la montée en puissance des gangs. La nature a horreur du vide. Et effectivement, comme le soulignait Bill O'Neill, face à un État déjà extrêmement faible avant ces derniers événements, les gangs ont occupé le terrain avec des moyens militaires, je dirais, beaucoup plus puissant que la police. Les quelques policiers, il en reste moins de 10 000 en Haïti pour une population de 11 millions d'habitants, ce qui est un ratio évidemment très très faible. Ceux qui résistent, Bill le disait, sont des héros par rapport à des gangs surarmés grâce au trafic d'armes depuis les États-Unis. Je pense aussi qu'il faut... Il y a évidemment une forte responsabilité dans cette crise des élites haïtiennes, tant des élites politiques, des élites chefs d'entreprise et autres. Mais il y a aussi une grande responsabilité de la communauté internationale. Et ça, je pense qu'il faut qu'on puisse en parler et le dire franchement.
Tout à fait. On développera. On reste sur la question des gangs avec vous, Jean-Marie Théoda. Le phénomène des gangs, ce n'est pas un phénomène nouveau en Haïti. Ce qu'on a vu dans la crise qui s'est développée il y a un mois, c'est une sorte d'alliance entre ces gangs, ce qui donne et accroît évidemment leur force. Alors, comment cette alliance s'est-elle faite et pourquoi? Quel est l'objectif des gangs? Est-ce que c'est une prise de pouvoir qu'ils souhaitent? Est-ce qu'ils sont instrumentalisés d'une manière ou d'une autre par la classe politique haïtienne?
Alors, je pense que dans la logique des gangs, la prise de pouvoir n'est pas un objectif. Au contraire, la logique des gangs, c'est d'être un contre-pouvoir. C'est d'être dans l'ombre du pouvoir après en avoir été l'instrument. Alors, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à une inversion du rapport de force entre un régime autoritaire, et Michel Karoua a raison d'insister sur la dérive que nous avons connue depuis 2010, qui va dans le sens d'un pouvoir de plus en plus autoritaire, de plus en plus brutal, s'appuyant donc sur des milices, des gangs, des supplétifs. Mais tant que ce pouvoir central reste assez fort pour contrôler ces gangs, il y a une sorte de paix sociale, caricaturalement, qui a été obtenue justement en 2018 avec l'écrasement de la contestation populaire par les gangs des 400 Marozo, avec à leur tête donc Jimmy Chérizier, alias Barbecue. Aujourd'hui, que le pouvoir central s'est effondré, avec l'assassinat du président de la République, avec l'illégitimité de tous les autorités aujourd'hui en place en Haïti, les gangs, finalement, ne sont qu'un élément, on va dire, de cet arrangement bancal qui sert de légitimité en Haïti. Et comme ils ont les armes et la puissance de feu pour s'imposer à tous les autres partenaires, donc nous avons l'impression qu'ils ont pris le pouvoir. Mais il ne s'agit pas d'une prise de pouvoir. Les gangs ont besoin, au contraire, du chaos actuel pour pouvoir prospérer, parce que c'est dans le chaos qu'ils peuvent faire leur business, c'est-à-dire le trafic de drogue, le trafic d'armes et de munitions, qui est finalement l'objectif de leur activité.
Géopolitique, Marie-France Satin.
Alors, des gangs armés, on l'a dit depuis le début de cette émission, avec un trafic d'armes en provenance de Floride. Je reste juste un instant sur la question de la population haïtienne. S'ils ont joué le rôle de paix sociale, les gangs en Haïti, aujourd'hui, la situation, William O'Neill, elle est absolument terrible de par la violence extrême. Quel est le ressenti de la population haïtienne à ce jour?
À travers les conversations que j'ai avec des gens qui vivent dans les quartiers comme Martissan, Carrefour, Tabar, Bel Air, les gens vraiment sous le contrôle des gangs, ils détestent les gangs. Les gangs n'ont aucune popularité. La population a peur, avec raison, et la population souhaite. Je crois que c'est une marque de désespoir de la population. Ils souhaitent l'aide de l'international. On est arrivé à ce niveau de violence, des kidnappings, la torture, les viols. Les Nations Unies, le Bureau des Nations Unies à Port-au-Prince, ne donne plus de statistiques sur les cas de viol et de violence sexuelle, parce qu'ils savent que n'importe quel chiffre, le chiffre sera tellement bas, ça ne serait pas réel. On donne une fausse impression, donc on ne donne plus de chiffres. Donc la population vive sur cette violence, cette cruauté, ce contrôle. Ils veulent avoir la liberté, une vraie liberté. Et c'est vraiment difficile d'échapper. Maintenant, les gangs contrôlent toutes les entrées, les routes, la mer. J'ai dit souvent, c'est comme une prison en plein air, la région du capital, contrôlée presque quasi totalement par les gangs.
Alors, prison en plein air, c'est important de détailler les raisons pour lesquelles vous parlez de prison en plein air. Les ports sont fermés. L'aéroport fermé également. Fermé par les gangs, qui ont le contrôle.
Ça fait 5 semaines maintenant. Et les routes, les gangs contrôlent toutes les routes qui sortent et qui viennent de la ville. Ils font un contrôle sur chaque véhicule. Ils volent, ils violent, ils détruisent, ils prennent les marchandises, ils prennent l'argent de personnel dans les voitures, dans les camions. Donc c'est vraiment c'est une population sous le joug des gangs.
Alors ces gangs, est-ce qu'on a une idée de leur nombre? Est-ce qu'ils sont, voilà, de leur poids en termes de chiffres? On parlera aussi des sanctions de l'ONU contre plusieurs chefs de gangs en Haïti, dont l'impact finalement était extrêmement limité, et l'application de l'embargo sur les armes particulièrement médiocre. Jean-Michel Carrois, c'est une force. Alors ils sont très armés, mais c'est une force numéraire importante?
Alors écoutez, il n'y a pas de statistiques vraiment crédibles. On parle de quelques milliers de soldats, de combattants, avec ces fluctuants. On parle de plus d'une centaine de gangs, mais parfois c'est 10 personnes, essentiellement concentrées dans la capitale, dans la région de Port-au-Prince, qui regroupe maintenant près de la moitié de la population haïtienne. Dans les provinces, finalement, la situation s'est moins dégradée en termes sécuritaires, sauf dans l'Artibonite, qui est le principal grenier d'Haïti. Mais pour le reste, au Cap-Haïtien, par exemple, la situation reste plus ou moins sous contrôle. Mais ce qu'il faut rappeler, et ça, je tiens également à le souligner, comme l'a fait Bill, c'est qu'on a moins de 10 000 policiers pour, face à un nombre de membres de gangs peut-être un peu inférieur, mais qui sont beaucoup mieux armés, qui sont beaucoup plus, je dirais, en terrain conquis, parce que les policiers, finalement, ont abandonné des pans entiers de la capitale et de la région métropolitaine de Port-au-Prince, où ils ne peuvent plus pénétrer. Et il faut voir aussi quel est le vécu quotidien d'un policier haïtien qui souvent vit dans un quartier contrôlé par les gangs, qui est mal payé, parfois pendant plusieurs mois sans recevoir de paye, qui est mal armé. Jusqu'à une période récente, par exemple, les États-Unis, dont viennent la plupart des armes, ou la quasi-totalité des armes des gangs, les États-Unis ne fournissaient pas d'armement à la police haïtienne jusqu'à il y a 15 jours. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement difficile où, comme le disaient les amis, la population, même si c'est à son cœur défendant, je dirais, sait qu'il n'y a pas de solution sans un appui international. Alors quelle forme prendra cet appui international? C'est un peu la clé, finalement, de l'évolution de la situation dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a des débats, mais je pense que la population qui vit en Haïti actuellement est tellement désespérée par cette situation qu'elle a envie qu'il y ait une intervention, une aide de l'extérieur pour combattre ces quelques milliers de membres des gangs.
Alors, intervention, aide militaire extérieure, on a évoqué l'envoi de personnalités en provenance du Kenya. J'ai cru comprendre aussi que la population haïtienne s'interroge sur le fait que, jusqu'à présent, les États-Unis n'aient rien fait. On peut rappeler qu'ils sont, les États-Unis, en campagne électorale, mais tout de même, envoi de marines. Enfin, voilà, Quelle forme pourrait prendre Jean-Marie Théoda l'appui international dont il est question et qui est demandé par la population haïtienne et selon une certaine urgence? J'ai compris que il ne s'agit pas de régler cette question dans les mois qui viennent. Je veux dire, c'est vraiment le plus vite possible, Jean-Marie Théoda.
Je pense que, en partant de la statistique que vient de donner Jean-Michel Carrois, c'est-à-dire à peu près 10 000 policiers, malheureusement aujourd'hui c'est un peu moins. On est plutôt autour de 6 à 7 000. Parce que l'année dernière, il y a eu un véritable volée d'oiseaux dans le cadre du programme d'émigration facilité par les États-Unis qui a littéralement siphonné la police nationale, siphonné l'administration, siphonné l'école, l'université. On a vu partir beaucoup de fonctionnaires haïtiens. Donc aujourd'hui, on table plutôt sur 6 à 7 000 policiers armés avec des armes de maintien de l'ordre dans un pays normal, avec en face plusieurs milliers de gangsters avec des armes et des munitions. On considère qu'il y a plus de 600 000 armes de guerre en circulation dans le pays, en particulier dans la région métropolitaine. Donc il y a une disproportion dans les rapports de force entre les gangsters qui représentent ce que le géographe Roger Brunet appelle l'anti-monde. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un conflit ethnique, d'un conflit religieux, d'un conflit social, d'un conflit territorial avec des partis qui auraient des idées ou des positions à faire valoir. Là, ce sont des gens qui sont contre toute forme d'ordre, toute forme de légalité, toute forme de normes, dans le fond. Et quand on voit leurs cibles, ce sont les écoles, les universités, les hôpitaux, les pharmacies. Ils s'en sont pris à la Bibliothèque nationale, avec des pièces qui datent de plus de 2 siècles, qui sont parties en fumée. Et aujourd'hui, on voudrait que nous négocions avec des bandits, avec des brigands qui n'ont pas, on va dire, d'autres monnaies d'échange que les balles qu'ils destinent à la population. Donc, il est évident, depuis plusieurs années en Haïti, que nous n'allions pas nous en sortir sans une intervention internationale. La question maintenant est de savoir à qui s'adresser dans une telle situation. Compte tenu de l'expérience des interventions étrangères, je ne vais pas remonter au...
Parce qu'il y en a eu beaucoup, des interventions de l'ONU,
je ne vais pas remonter à l'occupation américaine non plus, de 1915 à 1934, qui sont des épisodes douloureux dans l'histoire d'Haïti. Mais disons, prenons le dernier épisode, 2004 à 2017, le pays a été occupé, de fait, par les casques bleus, qui, dans le cadre d'une mission de stabilisation, ont non seulement pas tenu leur promesse de stabiliser l'État haïtien, aussitôt parti, l'État s'est effondré comme un château de cartes, mais surtout ont laissé le souvenir douloureux de l'introduction dans le pays de l'épidémie de choléra qui a fait plus de 20 000 morts. Et aujourd'hui encore, nous attendons, sinon réparation, mais du moins des excuses officielles dues à la mémoire.
L'ONU qui a été dans le déni le plus total sur cette question de choléra. Peut-être que William O'Neill voudra rajouter quelque chose. Jean-Marie Théoda.
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut dire par ailleurs, c'est que si les Haïtiens avaient véritablement la manette de leur politique étrangère, avec la possibilité de s'adresser librement à des États voisins qui ont une histoire commune, qui ont surtout un récit capable de converger avec le nôtre, je pense que ce n'est ni au Kenya, ni peut-être même pas aux États-Unis qu'on s'adresserait, mais à Cuba, qui est un voisin proche, qui est un pays ayant une expérience d'intervention étrangère et surtout une présence empathique en Haïti depuis aujourd'hui plus de 30 ans. Il y a des missions éducatives, une mission médicale cubaine qui fait de véritables miracles dans les campagnes haïtiennes. Donc, je pense que si nous avions le choix de notre géopolitique régionale, ce n'est pas vers le Kenya, mais vers Cuba que nous nous adresserions. Mais il est évident que c'est de la géopolitique fiction, que jamais les États-Unis n'accepteraient une telle occurrence dans leur arrière-cour.
Cuba qui est, on le rappelle, et j'ai finalement pas l'occasion de relancer une question, étant donné qu'on arrive à la fin de cette première partie d'émission, mais Cuba qui est donc en situation d'embargo imposé par les États-Unis depuis la révolution dans les années, enfin en 1960, et c'est tout à fait étonnant que, eh bien, on n'ait pas encore parlé du pays voisin d'Haïti sur l'île d'Hispaniola qui est la République dominicaine. Avec vous, Jean-Michel Carrois, on abordera la question de ce que peut faire ou ce que voudra ou accepterait de faire la République dominicaine. On vous retrouve tous les trois, William O'Neill, Jean-Michel Carrois et Jean-Marie Théoda, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la crise en Haïti, nous retrouvons nos invités. William O'Neill, expert des Nations Unies pour les droits humains en Haïti, pays qu'il arpente depuis plus de 30 ans. Jean-Michel Carrois, journaliste spécialiste de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. Et Jean-Marie Théoda, géographe, maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On a terminé la première partie de l'émission sur la nécessité d'une intervention ou d'un appui international. On ne sait pas très bien comment le nommer en Haïti. Jean-Marie Théoda évoquait... La proximité peut-être des liens entre Haïti et Cuba, ou en tout cas placer Cuba comme un voisin d'Haïti tout à fait à même de pouvoir intervenir, évidemment ce ne serait pas sans problème. Et on n'a pas encore parlé, Jean-Michel Carrois, de la République dominicaine, qui est le pendant d'Haïti sur l'île d'Hispaniola. Comment la République dominicaine vit-elle ce qui se passe en Haïti? On peut rappeler que la République dominicaine a érigé un mur entre Haïti et son propre territoire, avec des points de passage. La République dominicaine qui est particulièrement embarrassée par ce qui se passe en Haïti.
Alors oui, d'abord un petit mot sur ce que vient de dire Jean-Marie. Je pense que Cuba traverse une crise aussi dont on parle très peu dans la presse internationale. Bon, RFI fait allusion de temps en temps, mais Cuba n'est pas en position actuellement... évidemment, de régler le problème haïtien, je pense pas.
Crise post-Covid avec l'effondrement du tourisme, etc.
Une grave crise économique qui a provoqué d'ailleurs des manifestations récemment. Concernant la République dominicaine, l'histoire, les relations entre ces deux pays, l'histoire est très complexe. Un antagonisme qui serait un peu long de rappeler en détail. Mais ce qu'on peut dire sur la dernière période, c'est que... premièrement, on est en période électorale. Les élections ont lieu en République dominicaine le 19 mai prochain, élections présidentielles et législatives. Et que le dossier haïtien, le sujet haïtien, est toujours un dossier très polémique en République dominicaine, qui est manipulé par une petite extrême droite très présente médiatiquement et qui influence les différents gouvernements sur le thème « la menace, le péril haïtien ». Et d'autant plus facilement sur la dernière période que la presse, les médias dominicains sont sûrement les médias internationaux qui suivent de plus près ce qui se passe en Haïti, qui parlent tous les jours de barbecue, de ISO, etc. Et que ça a créé un climat réellement de peur, notamment après l'attaque du pénitencier national à Port-au-Prince qui a... provoqué la libération de plus de 4000 prisonniers. Les Dominicains ont eu peur que ces prisonniers traversent la frontière et ils craignent une avalanche, un tsunami d'Haïtiens affamés si la crise continue à s'aggraver en Haïti, raison pour laquelle le président Abinader a décidé de construire... Alors un mur, c'est un bien grand mot. En fait, c'est plus une clôture qu'un véritable mur qui, pour l'instant, est loin de courir sur toute la frontière. Mais il y a eu un renforcement du dispositif militaire important sur la frontière pour éviter justement un afflux massif de migrants haïtiens. La République dominicaine, comme d'ailleurs d'autres pays de la région et les États-Unis, continuent d'expulser les migrants haïtiens en situation irrégulière vers Haïti, malgré la situation humanitaire catastrophique. Et je pense qu'il y a eu un effort du président Abinader juste après son élection pour essayer de normaliser la relation, pour essayer de traiter avec son homologue de l'époque, Jovenel Moïse, les grands dossiers qui sont le dossier migratoire et le dossier du commerce entre les deux pays. Haïti est le deuxième marché pour les produits d'exportation dominicains. Et malheureusement, ces accords en termes de commerce, de migration, d'environnement, de santé, etc., qui avaient été signés donc au tout début du mandat, peu après l'élection en 2020 de Luis Abinader, l'assassinat de Jovenel Moïse a fait que ces accords sont restés évidemment sans aucune suite et que la République dominicaine a dû se contenter finalement dans toutes les enceintes internationales d'essayer d'alerter la communauté internationale sur la détérioration de la situation en Haïti. Et ça, il faut reconnaître que c'est le pays qui a le plus crié dans les enceintes internationales en disant « attention, La situation se dégrade de manière dramatique en Haïti et la communauté internationale regarde de l'autre côté, ne veut pas regarder ce qui se passe en Haïti.
D'ailleurs, vous en parliez dans la première partie de l'émission sans l'avoir développé, mais voilà, la responsabilité durant toutes ces années de crise, Bill O'Neill, de la communauté internationale. Alors, pour en revenir à cette force, cet appui international, il y a eu, on l'a dit, beaucoup d'interventions de l'ONU sur place en Haïti, beaucoup d'échecs de ces interventions. Qu'est-ce qu'on a appris de ces échecs et comment voyez-vous se concrétiser une intervention internationale? William O'Neill.
Oui, pour l'intervention prévue par la résolution du Conseil de sécurité le mois d'octobre, c'est une mission de soutien à la police nationale d'Haïti. C'est pas une occupation, c'est pas MINUSTA 2,0 ou 3, c'est une mission de soutien à la police. C'est très important. Donc tout est planifié dans ce sens. Comment peut-on renforcer cette police qui a vraiment été diminuée par le programme Biden? Et ils ont aussi perdu beaucoup de policiers. Ils ont été tués récemment aussi. Et il y en a un autre qui ne peut plus faire. Donc, c'est ça. C'est très important. Deuxième chose, on a essayé d'apprendre les leçons du passé. J'espère qu'on n'est pas condamné de répéter les fautes déjà faites dans les interventions précédentes, surtout le déni. Sur le choléra, je crois que c'était ça le problème. C'était une insulte à la population haïtienne. Et j'ai beaucoup critiqué, pas moi seulement, beaucoup critiqué la position de Ban Ki-moon et les gérants des Nations Unies à ce moment-là. Ils ont dénié la responsabilité. Ils ont essayé de fuir une responsabilité de compensation qui persiste toujours.
Parce qu'avouer, c'était payé très cher.
Oui, ils ont cru, mais ce n'est pas vrai. Alors, il y a tout un débat légal. Je recommande, il y a un article écrit, un rapport écrit par Philip Alston. À ce moment-là, il était le rapporteur spécial pour la pauvreté extrême pour les Nations Unies. Il a tellement critiqué la position des Nations Unies sur leurs responsabilités pour le choléra en Haïti. Et il y a des cas maintenant, il y a des cas récents du choléra dans les sites des déplacés, dans les cliniques, donc ça persiste. Donc j'espère au moins on a appris qu'on ne peut pas dénier. Vous parlez de règles de droit, un état de droit qui dépend de la responsabilité, de accountability en anglais, je n'ai jamais trouvé le mot en français qui donne l'esprit à cette responsabilité importante. Si vous faites quelque chose qui est mauvaise, il faut reconnaître, il faut avoir un procès. Et maintenant, je sais, on a tout un système de surveiller si la force arrive. Les moniteurs des droits de l'homme seront là. S'il y a un problème avec violence sexuelle ou ailleurs, il sera un système de porter plainte, de trouver le responsable, le coupable et d'agir très vite. C'est ça, une leçon très bien apprise, j'espère, qu'il faut être prêt à appliquer s'il y aura de nouvelles interventions.
Mais alors là, concrètement, on se retrouve dans une situation où les ports sont bloqués, les aéroports aussi. Jean-Marie Théoda, alors est-ce que ce qui est intervenu tout à fait récemment, il y a moins d'une semaine, avec cet accord trouvé par les responsables politiques haïtiens pour former un conseil de transition présidentielle de 22 mois qui sera chargé de restaurer de l'ordre en Haïti. Est-ce que c'est un élément dont il faut accorder une importance et voyons un petit peu ce sur quoi il va commencer à travailler. Mais on l'a compris aussi, il y a urgence parce que, de ce que j'ai compris, de l'alimentation n'arrive plus. Il n'y a que les armes qui arrivent à passer. On l'a dit dans la première partie de l'émission, 90% des armes entre les mains des gangs proviennent aujourd'hui de Floride. Jean-Marie Théoda, comment voyez-vous la situation évoluer? Quels sont les principaux défis et les priorités?
Je crois qu'il faut faire un état des lieux des forces en présence et considérer que pour le moment, ce sont les bandits qui dominent la place. Ils ont la supériorité en armement, en détermination aussi. Parce qu'il faut voir que nous avons d'un côté un État affaibli qui vacille sur ses principes et qui essaye de trouver une issue vers la légalité. Et de l'autre, des bandits qui sont motivés par une pulsion de mort et qui ne connaissent aucune limite puisque justement l'État de droit est aujourd'hui passé sous le boisseau. En face, il y a précisément cette société civile qui est profondément ébranlé par cette occupation de forces criminelles. Nous parlons de plus de 80% de la zone métropolitaine contrôlée par les bandits. Et dans ces 80%, ce sont des incursions dans les maisons, des viols systématiques, des vols, des actes d'humiliation, de mutilation. Il y a véritablement un désir de destruction de l'État. Et dans ce marasme, vous avez une tentative, justement, de reconstruction de force de l'État, d'une certaine légalité, avec un conseil présidentiel, donc transitoire, un mandat de 22 mois, qui a fait une déclaration publique, une sorte de manifeste, qui ne fait que répéter, en fait, ce que tout le monde sait déjà. C'est-à-dire, la priorité absolue, c'est la restauration de la sécurité publique. Et c'est ici que nous revenons, on va dire, au début de la discussion, c'est-à-dire comment rétablir cette sécurité publique lorsque la police est totalement démunie, lorsque les gangsters occupent non seulement la place publique, mais réclament leur place dans les débats en cours. Alors c'est ici qu'il faut accepter cette leçon d'humilité et reconnaître que sans la CARICOM, c'est-à-dire le marché commun des États de la Caraïbe, nous n'aurions pas pu obtenir cette première issue favorable, c'est-à-dire la démission d'Ariel Henry. Maintenant, moi, je considère que Ariel Henry et Barbecue, ce sont les deux faces d'une même fausse médaille de la légitimité haïtienne. La CARICOM nous a aidés à nous débarrasser d'Ariel Henry. Il faut qu'elle ait le courage, qu'elle ait, comme on dit au Canada, les boutines, après avoir eu les babines qui nous ont permis de faire un premier pas vers la légalité. Et il est important de remarquer que c'est à la CARICOM que le Conseil présidentiel de transition a adressé sa demande, et non pas à Ariel Henry, et non pas au gouvernement provisoire. Et donc Haïti donne aujourd'hui la preuve que la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont les principes de base de notre République, sont en danger et ne peuvent être protégés que si nous sommes ensemble. Que Haïti, toute seule, c'est un symbole en péril. Et il est important de voir que ce sont nos îles sœurs de la Caraïbe qui ont les premières pris la mesure de cette urgence historique. Moi, je salue cette empathie historique qui est une véritable lueur dans la solitude existentielle que connaît ce pays depuis plus de 2 siècles.
Alors, tout à fait intéressant ce rôle de la CARICOM, donc la communauté politique caribéenne. Mais j'ai envie aussi de vous poser cette question, peut-être l'un ou l'autre, Jean-Michel Carrois ou William O'Neill. Qu'est-ce qui permettrait à la CARICOM de réussir là? J'en reviens à l'ONU, à la question des sanctions. En fait, l'idée, c'est comment se débarrasser des gangs, comment leur retirer leur pouvoir. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu des blocages, en particulier des blocages onusiens, William O'Neill, les sanctions contre les gangs, voilà, il y a un verrou qu'il faudrait faire sauter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces blocages?
Bon, d'après ce que je cherche, le panel des experts pour les sanctions, ce sont des gens indépendants, il vient de publier un rapport la semaine dernière qui est très bon, qui montre le problème qu'on a déjà parlé sur l'arrivée des armes, la structure des gangs, les financements des gangs. Et c'est très bien fait. Ils ont fait un travail avant qui a identifié, on m'a dit, c'est une liste très confidentielle, 15 noms pour être sanctionnés par les Nations Unies.
15 noms de chefs de gangs?
Non, pas seulement des gangs, mais des politiciens et des oligarques. Ce n'est pas seulement les chefs de gang, parce que les sanctions contre les chefs de gang n'ont pas tellement un impact. C'est un impact symbolique, c'est important, mais ISO, Barbecue n'ont pas de compte bancaire à Genève ou à Paris, à Miami, non. Ce sont les politiciens et les oligarques qui ont des liens avec le système financier aux États-Unis, en Europe, les visas pour envoyer des enfants aux écoles à Montréal ou à Paris. Donc, il faut les toucher avec les sanctions. Ils ont peur. Il y avait 3 questions qu'on m'a posé pendant ma dernière visite en Haïti, au mois d'octobre-novembre, de la part des gens qui vivent dans des quartiers très, très, très dangereux. Où sont les Kenyans? Les Kenyans, ça veut dire la force de soutien. Pourquoi ça traîne tellement? Et troisième, qui est sur la liste des sanctions? Ils savent tous. En Haïti, ils disent, tout le monde sait, tout le monde sait. Et c'est vrai, tout le monde sait, mais il faut avoir des preuves pour aller au Conseil de sécurité. Le problème maintenant, on a cette liste-là, mais on entre dans une question de géopolitique. Alors, avec les pays avec des intérêts pas tout à fait fixés sur Haïti même. Il y a d'autres questions, le Gaza, Ukraine, TikTok. Donc ça devient une question politique au niveau géopolitique où les décisions
sont faites.
Alors oui, et c'est important tout de même de le dire, parce que les blocages finalement sur la question haïtienne, on les retrouve ailleurs. Ce sont deux pays essentiellement, c'est la Russie et la Chine. Je ne sais pas si William O'Neill, peut-être pas, aurait envie de développer, mais peut-être vous, Jean-Michel Carrois, sur...
Oui, je partage tout à fait l'analyse que vient de faire Bill O'Neill. Et malheureusement, le drame haïtien a été occulté pendant longtemps et l'est toujours un peu moins depuis quelques semaines par d'autres drames qui agitent la planète, que sont évidemment la guerre en Ukraine, que sont évidemment le massacre et les massacres à Gaza. Et face à ça, tant la Russie de Poutine que la Chine, au sein du Conseil de sécurité, lorsqu'il s'agit de parler d'Haïti, de parler de cette liste de sanctionnés, de parler d'autres sujets, il y a un jeu qui ne prend pas forcément en compte les intérêts du peuple haïtien et la survie du peuple haïtien, mais plutôt le fait d'embêter les États-Unis pour telle ou telle raison. Quand il s'agit de trafic d'armes, la Chine est contente de voir qu'elle peut dire que les États-Unis sont les mauvais joueurs parce que c'est de chez eux que viennent les armes qu'acquièrent les gangs. Et la Russie a un jeu aussi assez trouble, je crois, au Conseil de sécurité. En tout cas, pour l'instant, là, c'est la Russie et la Chine qui se sont abstenus lorsqu'il s'est agi de prendre des mesures plus fermes. Alors on va voir si ça continue d'être le cas. Il y a aussi une question qui est le financement de cette force internationale. On a parlé au début de 200 millions de dollars, ensuite on est passé à 400 millions de dollars. Et puis on a dit que finalement il n'y avait que 10 à 20 millions de dollars disponibles pour la mission internationale. On ne parle pas là de l'urgence humanitaire et des centaines de millions de dollars qu'il faudrait également pour faire face à l'urgence humanitaire en Haïti. C'est vous dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire et qu'on ne peut qu'espérer, quand on connaît Haïti, qu'on a des amis avec qui on est en contact et qui ne cessent de nous décrire la dramatique situation sur place, d'espérer que ça ne va pas encore traîner pendant des mois.
Parce qu'évidemment, il y a urgence, on l'a suffisamment dit. Jean-Marie Théoda, en guise de conclusion.
En guise de conclusion, je dirais que le drame d'Haïti, c'est que nous avons été seuls dans toute l'histoire face à de nombreux défis. La société a toujours été contre l'État, au sens que cet État autoritaire a voulu reconduire un ordre social d'un autre temps, c'est-à-dire un ordre colonial. On dit qu'Haïti a connu une révolution anticoloniale, anti-esclavagiste, anti-raciste, mais ce ne fut pas une révolution sociale. Et l'ordre social qui a traversé le 19e et le 20e siècle est aujourd'hui totalement obsolète, parce que, justement, il a fini par briser la société. Et aujourd'hui, c'est cet ordre autoritaire produit par l'État qui se retourne contre la société. Ce sont les bandits, les criminels et les brigands qui sont ce qui reste de l'effondrement de l'État et qui aujourd'hui se retourne contre la société. Et je pense que notre idéal n'est pas moins noble que celui du peuple d'Ukraine, que celui du peuple de Gaza, et que l'empathie dont nous faisons preuve aujourd'hui à Paris, en Europe, devrait également considérer de façon plus favorable Haïti, parce qu'il s'agit en plus d'une république sœur qui est née sur les mêmes principes de vivre libre ou mourir qui ont donné naissance à la première république en France. C'est ensemble que nous avons combattu contre les principes de l'esclavage. C'est en Haïti que la Révolution française est devenue véritablement universelle dans sa portée. Et je pense qu'il serait important que nous considérions que ce qui est en jeu aujourd'hui en Haïti, c'est aussi l'avenir de la démocratie en France.
Merci Jean-Marie Théoda. Je rappelle que vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci aussi à vous, William O'Neill, qui était de passage à Paris en provenance de Genève, expert des Nations Unies pour les droits humains en Haïti, et Jean-Michel Carrois, qu'on a eu également la chance d'avoir à Paris, journaliste et spécialiste de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Chloé Gomez et Didier Chérouse. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.